Ça m'oblige à aller regarder ce qui se fait, enfin du moins à écouter ce qui se fait ailleurs. Et honnêtement, ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment pourri, quoi. Donc j'ai qu'une envie, c'est que Radio France réémette et reprenne ses émissions, que la grève s'arrête. En tout cas, merci à Radio France ou à tout groupe Radio France pour ses émissions. Benjamin Langer.
Bonsoir Daniel, nous sommes lundi soir, là, il est à peu près 20h passé. Et tu vois, je me demandais comment j'allais servir la soupe ce soir. Alors, bol, assiette creuse, on hésite toujours un peu hein, pour servir la soupe. Crouton nature ou crouton à l'ail, éventuellement un peu de fromage râpé, voilà, pour servir la soupe. Mais en fait, je pense que la meilleure démonstration, elle est venue de David Pujadas ce soir, avec son sourire quasi paternaliste devant Marion Maréchal Le Pen. Voilà, donc un grand service de soupe de la part du Laquais des Puissants, pour qui il vaudra toujours mieux être une jeune étudiante de bonne famille qu'un délégué syndical CGT. C'est Paul de Brest.
Bonjour, bah écoutez, c'est un cri d'effroi ce matin. On est mercredi matin, je viens d'entendre les infos d'Inter à 6h du matin. Je suis carrément horrifiée. Entendre ce qui se passe sur la place Tahrir, on parlait du printemps arabe, on parle du match de foot où les Français ont été minables, et on entend à 6h du matin que des femmes, des milliers de femmes, ne peuvent même pas aller sur la place Tahrir à moins d'être manipulées par des armes blanches, d'être assassinées, d'être violées, d'être laissées sur place par tous. C'est abominable ce qu'on entend, abominable. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde de barbares? C'est Annie, j'habite le plan de grâce, le coq est en train de chanter et moi je suis en train de pleurer. Abominable la place Tahrir, abominable. La honte sur ces hommes.
Bonjour, là-bas si j'y suis, bonjour toute équipe. Je vous appelle parce que je viens d'entendre des infos et j'ai appris que Johnny Depp et Vanessa Paradis se séparaient. Et ça me fiche un coup, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit que en fait, j'étais pas au courant et ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Alors je vous appelle parce que là je suis un petit peu soucieux de pour moi-même. Je me demande si c'est normal que j'étais pas au courant qu'ils se séparaient, quoi. Parce que ça fait quand même 14 ans qu'ils sont ensemble. Voilà, merci, au revoir.
Salut Daniel, salut les auditeurs de là-bas, si j'y suis, j'appelle car nous allons mourir. Nous, c'est le Calme de Cabris, centre d'aide et de libération des malades éthyliques. Nous, c'est 30 travailleurs de la seule clinique coopérative de France. Nous, c'est 17 000 personnes qui sont venues se faire soigner de leurs problèmes d'alcool et d'addiction et tenter de se libérer. Nous, c'est une thérapie institutionnelle reconnue par la Haute Autorité de Santé. Nous, c'est une tarification de 3 864 euros pour 29 jours, là où un service hospitalier perçoit 14 000 euros. Tout cela parce que l'Agence régionale de santé nous classe dans une catégorie qui ne reconnaît pas notre spécificité. Nous ne voulons pas que tout s'arrête cette année. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer voir le site de l'association de soutien www.ascalmecabris.com. Merci à tous, et si toi Daniel, tu veux voir ce que c'est qu'une clinique privée où chaque travailleur égale une voix et où il n'y a pas d'actionnaire à enrichir, tu es le bienvenu.
Et ben voilà, c'est ce que nous avons fait suite à ce message, le dernier message en vérité. On l'a reçu il y a déjà un certain temps et ça nous avait frappé, cette histoire de ce centre d'action et de libération des malades éthyliques, quelque part en Provence, à Cabris. Qu'est-ce qui se passait là? D'abord, qu'est-ce que c'est que ces traitements? Comment ça fonctionne? Et les problèmes que pouvait avoir ce centre de libération des malades éthyliques. Alors c'est Charlotte Perry qui est allée là-bas et qui nous raconte aujourd'hui, qui nous rapporte aujourd'hui ce qu'elle a vu et entendu et les rencontres qu'elle a faites dans cet endroit. Comme vous l'avez peut-être remarqué, vous qui nous suivez chaque jour, on est revenu vivant de Libye et on vous racontera ce qu'on a fait là-bas, ce qu'on a vu là-bas et ce qu'on a rencontré là-bas à partir de lundi prochain pour la dernière semaine de la saison de là-bas si j'y suis. Mais pour l'instant, on va vivre, ivre ou pas dans vivre. Il y a ivre, c'est jusqu'à 16h. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Dimanche 17 juin, 4e circonscription de Vaucluse, Jacques Bompard, élu député.
Je vois défiler le même filet en bas de l'écran. Lundi 18 juin, commémoration de l'appel du général de Gaulle à Bolène, dirigé par l'épouse de cet élu. Après le discours de la joie aux associations, les anciens combattants et résistants de tous bords entonnent le chant des partisans. Ils sont apostrophés, empêchés de continuer par les élus et leurs sbires, sans respect pour leur engagement passé ni leur âge. On hurle la Marseillaise pour couvrir leur chant de résistance, le tout devant une classe d'école primaire. Alors oui, l'insécurité à Bolène, c'est un fait. Par contre, venez écouter gratis Patrick Juvet et Chantal Goya. Si, si, si. Venez donc au thé dansant troisième âge. Venez rigoler au spectacle gratuit et pièces de théâtre gratuites aussi. Par exemple, La perruche et le poulet ou Grossesse nerveuse. Signé une bolénoise nauséeuse.
Après deux CDD de 3 mois, mon fils vient de décrocher un CDI, tant que ça existe encore. C'est fou, mais ça veut dire qu'il va pouvoir prétendre à un logement. Dans la cité où il est, pas mal d'appartements sont vides. Une cité HLM, hein, en briques rouges, bon. Et pourtant, ça fait 6 mois qu'il dort sur le canapé de sa grand-mère. Monsieur, pas de CDI, pas de studio. Et si ta grand-mère a pas de canapé, comment tu fais pour bosser? Logement social, je perds mon sang-froid. C'est Christine du Limousin.
Bon, alors je viens d'entendre au 13h de France Inter, Laurence Parisot nous expliquer une fois de plus que la plus grosse partie des ressources de l'économie vient des investisseurs privés. Ce sont en quelque sorte des bienfaiteurs, ils ont beaucoup d'argent, c'est eux qui investissent, et donc il ne faut pas les faire fuir. Si on commence à les taxer, ils ne vont plus vouloir investir. Le raisonnement a l'air de se tenir. Alors là, je ne suis pas agressif, je lui réponds simplement par une autre question. Comment se fait-il que ce soit des particuliers qui s'accaparent la plus grosse partie des revenus de la production d'une société? C'est ça qui n'est pas normal. Elle a beau dire, je le répète encore une fois, si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à l'économie. Et bien moi, je lui réponds la même chose. Si elle n'a pas compris que ça, c'est pas normal, que ça repose sur une anomalie de départ, eh bien, c'est elle qui n'a rien compris à l'économie. C'est seulement ça que je veux lui faire comprendre, moi. C'est que les revenus qui sont produits par une société, mais ils doivent appartenir à toute la société.
J'ai commencé à boire parce que j'ai un fils qui était toxicomane, donc héroïnomane, et je ne savais plus quoi faire. Et puis je n'avais qu'une seule envie, c'est de dormir, d'oublier. Donc je me suis réfugiée dans l'alcool.
De toute façon, c'est une honte. De toute façon, c'est une maladie honteuse, l'alcoolisme.
Vous buviez quoi?
Vodka. À peu près une bouteille par jour et... à n'importe quelle heure.
Ça m'a fait connaître des expériences que j'aurais jamais connues autrement que sous alcool. Je me rappelle avoir skié au milieu des sapins, complètement ivre. Parfois, c'était les sapins qui m'arrêtaient.
Il y a une espèce de courant de pensée qui fait croire aujourd'hui que pour faire des économies, il faut fermer des établissements. Alors qu'on ferme un établissement qui fonctionne mal et qui coûte très cher, ça peut se comprendre. Nous, on fonctionne bien et on coûte 3 fois moins cher.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est La Basse et j'y suis avec Charlotte Perry. Dans Vivre, il y a Ivre.
Flight number 2, arriving from New York.
Bon, et ben, il est 9h du matin et je me trouve à Cabris, un petit village provençal de 1500 habitants. Perché au fin fond de l'arrière-pays cannois. Là, je me trouve juste à côté de la place principale du village. Et je suis venue ici aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours, Laurent nous a laissé un message sur la boîte vocale de La Basse si j'y suis pour nous prévenir qu'ils allaient mourir. Il, c'est le calme le centre d'aide et de libération des malades éthyliques, autrement dit des alcooliques. Ils, ce sont 30 travailleurs de la seule clinique coopérative de France. 17 000 personnes sont venues tenter de se libérer de leurs problèmes d'alcool au calme depuis la création de la clinique en 1982, il y a 30 ans. Et tous les ans, 600 personnes viennent y faire une cure de désintoxication. Et le calme, c'est un peu un ovni parmi les établissements de santé, parce qu'il fonctionne selon les principes de l'économie sociale et solidaire, mais aussi parce qu'ils y appliquent les principes de la thérapie institutionnelle, issue de l'alterpsychiatrie des années 50-60. Et parce que c'est un ovni qui ne rentre dans aucune case administrative de l'Agence régionale de santé, eh bien le calme doit faire face à de graves difficultés de financement. Et si aucune solution n'est trouvée, eh bien l'établissement fermera ses portes dans très peu de temps.
Alors, je me souviens quand Lulu faisait l'ascenseur. Le matin, un peu avant 8h, au Béranger. Au coin de la rue Béranger, près du métro République. Lulu faisait l'ascenseur. Il y en avait que ça me faisait rigoler de voir Lulu faire l'ascenseur. Et puis, il y en a d'autres qui rigolaient moins. Puis d'autres qui s'en foutaient complètement. Alors l'ascenseur, comment il faisait pour faire l'ascenseur, Lulu? Eh ben, il prenait son écharpe en hiver. En été, il prenait sa cravate. Il se la mettait autour du bras, voyez, comme ça, à moitié. Et puis il se la passait derrière le cou, comme ça. Et puis, hop, ça lui permettait, avec l'autre main, de lever le bras, voyez. Ça faisait un système d'ascenseur. Et pourquoi il faisait ça, Lulu, le matin, un peu avant 8h au café Béranger, au coin de la rue Béranger, près du métro République? C'est parce qu'il tremblait. Ah oui, comme il disait, je bois beaucoup mais je tremble pas mal. Et je renverse, heureusement je renverse. Et comme ça, ça lui permettait de prendre son premier café grand-mère, c'est-à-dire le café arrosé avec du calva, et comme ça de le monter, voyez, parce que sinon il n'aurait jamais pu. Il aurait renversé. Alors en faisant l'ascenseur, comme ça, ça lui permettait de monter la première tasse de café grand-mère, café calva, jusqu'à son bec de pochetron. La moitié rigolait, la moitié ne rigolait pas, et d'autres s'en foutaient. Voilà à quoi on peut réduire l'ivresse publique, ou pas publique, ou secrète, ou cachée. On connaît tout là-dessus. C'est lié, vraiment intimement lié, à nos vies, à nos cultures, à notre humour, à nos malheurs et aux malheurs de pas mal d'entre nous. Alors on essaye de lutter contre ça. Le système de santé, et puis chacun essaye de lutter contre ça, plus ou moins, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de réussite. Pas trop de réussite, mais quand même un peu. Et là, il y a ce centre... Le calme, donc, nom bizarre, amusant, centre d'action et de libération des malades éthyliques, qui cherche justement sans doute ce calme dans ce village de Provence, avec, vous avez déjà compris, un fonctionnement particulier. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a senti là des vieilles idées, ce qui aujourd'hui semble des vieilles idées. Celle d'une société coopérative de travailleurs, déjà un fonctionnement de ce centre. C'est pas innocent, la façon dont un centre comme celui-là fonctionne par rapport aux patients. Quel rapport peut-on avoir aux patients si on n'est pas soi-même organisé, si on n'a pas réfléchi à la façon dont on s'organise, quel rapport on a entre soi pour ce qui donnera une signification au rapport qu'on aura avec le patient. Ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas forcément si vous vous souvenez peu ou mal ou pas du tout des problèmes de ces années 70. On s'occupait, on pensait aux patients, on parlait beaucoup d'antipsychiatrie, d'organisation, de la médecine, de la santé.
Eh bien, ces sujets-là et ces problèmes-là sont toujours vivants dans ce centre. Et avec un taux de réussite tout à fait exemplaire. Sauf que vous l'avez compris, le centre est menacé des histoires de mise aux normes, de financement de la part de l'Agence régionale de santé qui est très exigeante par rapport à ce centre. Mais dans un moment où le vent est plutôt à jeter les perdants sur un tas d'ordures, de rejeter les perdus, il nous a semblé intéressant d'aller mettre une oreille là-bas, dans ce coin de France, à Cabris, en Provence. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Dans Vivre, il y a Ivre.
Encore deux fois plus de bonheur et deux fois plus d'amis. Deux fois plus de taxis, voire double, ça change la vie. Alcool. Le monde me donne la gueule de bois. Et l'alcool arrange ça. Sans toi pas de Gainsbourg, sans toi pas de Rimbaud. Sans toi on serait contraint de se bourrer à l'eau. Alcool. L'amour me donne la gueule de bois. Et l'alcool arrange ça. Alcool. C'est mon seul grand amour, les autres se sont tirés. Et Christophe, et Jean-Louis, et Patrick, et Jean-Guy, et Bernard. C'est pas l'alcool qui fait mettre un index, c'est la tristesse.
Bonjour. Vous vous appelez comment ?
Alors Rémi Baupe, donc je suis et psychothérapeute et directeur adjoint de l'établissement. C'est le centre d'action et de libération du mal-être éthylique.
Donc on sort.
Donc vous voyez, l'idée est simple. Vous avez une grosse bastide tout près du village de Cabris. L'idée, c'est que les personnes soient un petit peu en retrait, mais pas trop. C'est-à-dire que très vite, au bout du 10e jour, elles pourront sortir, aller se balader dans le village. Donc c'était au départ une auberge et puis qui a été petit à petit améliorée et agrandie. On a notre établissement en Eure-et-Loire qui s'appelle aussi Le Calme d'Illiers-Combré. Et là aussi, donc, on a repris un moulin pour qu'il y ait toujours ce côté convivial, ce côté humain et non pas le côté un peu déshumanisé quelquefois de l'institution médicale. Pour nous, c'est important puisque très souvent, les patients que nous allons accueillir sont polydépendants et prennent extrêmement de médicaments. Or, si on veut viser un sevrage total d'alcool, il faut aussi, dans une certaine mesure, viser un sevrage de médicaments. Médicaments anxiolytiques, tous ceux dont ils détournaient l'usage à des fins toxicomaniaques. Il y a un certain nombre de médicaments qu'on doit garder. Et donc, il faut que l'institution soit extrêmement sécurisante.
Vous avez une vue absolument magnifique.
Ça, c'est le lac de Saint-Cassien. Quand il fait très beau, on voit la mer et on peut même voir la Corse. Donc là, vous avez les Adrets en face. Et puis il y aura Cannes ici et on va dire Antibes à peu près par là. C'est un très beau lieu, très très beau lieu.
Et là, c'est tous les pensionnaires qui sont installés dehors en attendant que... Oui.
Voilà, donc normalement à partir de 9h, 9h15, il y a les séances de relaxation, les séances de psychothérapie, les séances d'information en alcoolologie. Et donc il y a 45 pensionnaires. Chacun sont à des degrés différents de cure. Ils arrivent par petits groupes chaque mardi. Aujourd'hui, nous sommes... mardi, et vous verrez un groupe de curistes arriver, un groupe de futurs curistes, un groupe de patients. Et chaque semaine, donc, il part un groupe, puisqu'il reste 4 semaines chez nous.
Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant en fait? Qu'est-ce qui va se passer là maintenant?
J'ai 3 quarts d'heure d'information.
Ça se passe bien?
Ça se passe très très bien.
Vous aviez été dans d'autres établissements ou c'est le seul?
Clinique psychiatrique, mais ça ne m'a absolument pas aidée. Ici, il y a des psychiatres, des psychologues qui sont extraordinaires, donc qui nous apprennent, qui apprennent à nous connaître en fait.
Juste, c'est comment votre prénom?
Yolande.
Vous êtes de la région?
Non, absolument pas, je suis de la région lyonnaise.
Et vous allez reprendre le travail ou?
Non, je ne travaille plus, moi. Non, je ne travaille plus. Terminé. Quand on boit, on perd ses amis, on perd tout le monde. C'est considéré comme une maladie. Et puis les gens, notre entourage ne veut plus nous voir parce que on est ivre. J'ai commencé à boire parce que j'ai un fils qui était toxicomane, donc héroïnomane. Et je ne savais plus quoi faire. Donc mon ami, comme ce n'était pas son fils, lui a demandé de partir de la maison. Et puis donc c'était très difficile pour moi. Et quand j'ai vu mon fils dans l'état où il était, je me suis rendu compte que je voulais essayer de l'aider, mais c'était impossible. Et puis je n'avais qu'une seule envie, c'est de dormir, d'oublier. Donc je me suis réfugiée dans l'alcool. Ça fait 7 ans. Personne ne m'a obligée à venir. Donc c'est que je veux m'en sortir, c'est tout. Voilà. Excusez-moi.
C'est la réunion d'information?
Oui.
Voilà, elles sont, vous avez compris, 45 arrivées chaque semaine dans ce centre, un centre parmi d'autres, hein, mais avec un fonctionnement particulier, vous avez compris, et une organisation particulière, une société coopérative de travailleurs. Charlotte vous a donné quelques chiffres concernant la lutte contre l'alcoolisme. En France, selon la Cour des comptes, 5 à 6 millions d'adultes s'exposent à des difficultés d'ordre médical, psychologique et social du fait de leur consommation d'alcool. Et 2 millions au moins sont en situation de dépendance. Les décès par alcoolisme, au moins 45 000 par an, représentent 10% de la mortalité générale. Entre 45 et 55 ans, la part de la mortalité masculine liée à l'alcool est de 1 sur 5. Et au bout du compte, dit la Cour des comptes, le coût social brut et non plus simplement sanitaire de l'alcoolisme se situerait, selon l'Office français des drogues et toxicomanies, autour de 15 milliards d'euros, soit plus de 1% du PIB. La lutte contre l'alcoolisme est un véritable enjeu national, tant en termes de santé, de bien-être social que d'affectation optimale des moyens, notamment des fonds publics. Elle n'en est pas moins, écoutez bien, confrontée à des intérêts économiques majeurs. Le chiffre d'affaires hors taxes des producteurs de boissons alcoolisées étant de 17,3 milliards d'euros. C'était un chiffre de 2001. Et puis il y a évidemment les obstacles culturels qui sont extrêmement importants par rapport à ce domaine. On voit que on avait fait il y a bien longtemps déjà un sujet sur le lobby des alcooliers en France qui est effectivement extrêmement puissant. Voilà les résultats de tout ça aboutissent dans cet endroit, dans ce calme, ceux qui ont décidé. La volonté d'en finir, de réduire, voire de se soustraire totalement à l'emprise de l'alcool.
Bonjour. Vous attendez les médicaments? Vous prenez quoi comme médicaments?
Je ne sais pas, tout ce qu'on me donne.
Je vous laisse prendre vos médicaments. Vous êtes arrivé aujourd'hui, c'est ça?
Ce matin.
Ce matin?
Oui, oui. C'est la deuxième expérience, donc.
Ici?
Oui. À 11 ans d'écart, après 11 ans d'abstinence complète. C'est pas heureux de se faire ce bilan, de dire je reviens au point de départ, d'il y a 11 ans. Mais enfin, il y a eu 11 ans d'accalmie, de tranquillité. Et c'est vrai qu'une structure comme celle-ci Je pense qu'elles sont plus nécessaires qu'un hôpital général, où on risque de rencontrer justement des gens auxquels on n'a pas forcément envie de croiser le regard parfois. Des gens qui n'ont pas ce problème. Parce que c'est vrai que c'est pour beaucoup vécu comme une honte, parce que la société renvoie cette image justement de honteux, pitoyable, quelqu'un qui est addict à l'alcool. On ne voit pas quelqu'un d'alcoolisé autrement que complètement embrumé dans la rue, en train de divaguer, en se faisant sur lui, en dormant dehors, quoi. C'est aussi cette image-là, malheureusement, et c'est celle qui est le plus répandue dans le public et auprès des gens.
C'est quelque chose que vous avez vécu?
Piou, oui. Eh oui, c'est pour ça, changer tout ça. Et ce genre d'association, justement, permet qu'on n'ait pas ce regard des autres.
Alors, à moi.
Vous m'avez doublé, hein. Oh là là, ça va pas du tout.
C'est quelque chose d'arrivé. Hein.
Ah ouais, il vient d'arriver, il a le droit.
Vous vous appelez comment ?
Emmanuel. J'ai fait plusieurs cures. Une de 2 mois à Aix-en-Provence. Pas terrible. Enfin, mais j'ai arrêté de boire pendant 7 ans. Et après, par contre, je suis allée en hôpital psychiatrique. Là, ça a été une catastrophe. Parce que j'étais bourrée de médicaments, je suis sortie, c'était pas bien. Et par contre, je suis venue ici parce que j'habite très loin. J'habite à Marseille. Et j'ai 2 enfants et un mari. Et parce que ma tante, qui est une dame âgée, a fait sa première cure quand le calme a ouvert. Et elle n'a plus jamais rebu. Donc je me suis dit, je mets toutes les chances de mon côté et je suis rentrée le jour de mon anniversaire. Voilà.
Vous, vous êtes ?
Catherine, une des infirmières de la maison également.
Bonne dernière séance.
Nous sortons.
Bonne séance.
Bonjour.
Bonne arrivée.
Merci. Pas pour offrir un dernier verre, non ?
Non.
Ça remonte à quand ? Ton dernier verre, tu l'as offert quand ? Ça va, tu te sens bien ?
Oui.
Bon. Tu l'as bien fêté ou tu te l'es... Oui.
Vous proposez comme ça un dernier verre aux gens qui arrivent?
Oui, pour essayer, d'abord parce qu'on les accueille tels qu'ils sont, c'est leur problème, donc on sait que bon, voilà. Et essayer, si c'est possible, celui-là, de se l'offrir sans trop de culpabilité, de honte, enfin voilà, c'est... Ils s'offrent éventuellement leur dernier verre, donc on leur propose soit d'aller le prendre au village, et parfois, quand il y a des... suivant ce qu'on dit le médecin, on l'offre ici. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, bon, on commence à ce moment-là le sevrage, l'entrée dans la maison et on démarre l'accompagnement. Alors ce que je vais faire, je vais te montrer ta chambre. Donc où sont tes affaires? Là.
Viens, rentre dans ta chambre, ça s'appelle Mimosa.
Et je t'explique.
Dans les chambres, il y a une semaine.
Merci. Une semaine avec un voisin qui également, ce sera pour une semaine. En fait, si tu veux, avant c'était une auberge, un hôtel. Toutes les chambres n'ont pas les mêmes... Voilà, donc il y a des chambres qui sont plus agréables, vues sur le lac, là tu as vu sur l'olivier. Alors pour permettre une équité, que vous ayez au moins une fois dans le mois une chambre correcte, on fait ces changements-là. Voilà. Ouais, est-ce que tu m'as préparé tes affaires de toilette? Voilà, pour voir. Et puis éventuellement tes traitements. Tout ce que tu as comme médicaments, comme produits, tu nous les donnes et c'est nous qui te les préparons. Voilà, en gros, pas de prise de produits sans qu'on le sache.
Voilà.
Parfait. Donc, je vais mettre ça. Alors là, je regarde tes produits juste pour regarder la composition et en fait que tu n'utilises pas, toi, de produits qui pourraient contenir de la molécule d'alcool. Après, on t'expliquera en info pourquoi. Ouais. C'est une autre manière qu'à l'alcool de rentrer dans l'organisme. Le verre, d'accord, tu sais. Mais en fait, si tu te mets des produits du style parfum ou quel que soit, je vais regarder avec toi. Ou bien, dans l'alimentation, la molécule d'alcool, elle elle fait son petit travail et elle peut aller raviver quelque chose qui peut te donner envie de boire. Eh oui. Donc ça, c'est impeccable. Alors, c'est ta première cure ?
Oui.
D'accord. Tu as déjà fait des sevrages ou c'est vraiment le premier soin?
J'avais fait un sevrage suite à une tentative de suicide. Ça a été hard quand même. On m'avait attaché à la table, enfin bon, sanglé, un peu comme on voit à la télé, quoi. Enfin bon.
Quelque part, un des buts de la cure, d'abord, c'est déjà pas d'arrêter de boire ou d'arrêter de prendre les produits, mais en revanche, c'est d'être mieux, d'aller mieux dans sa vie et de comprendre pourquoi ils ont eu besoin en quelque sorte de produits, quels qu'ils soient, pour essayer de tenir debout, quoi, pour arriver au jour d'aujourd'hui. C'est leur histoire qu'ils viennent un petit peu essayer de comprendre et pouvoir vivre avec cette histoire, pas la changer, mais sans produits, ce qui est un sacré challenge. Hein.
C'est le stress. C'est le stress. Okay. J'ai le stress du boulot.
Tu as du temps, tu as un mois pour toi.
Vous vous appelez Patrick, ça.
J'ai vécu ça il y a 2 ans suite à une tentative de suicide. L'hôpital psychiatrique. Parce qu'ils m'ont mal dirigé en fait au départ. Et ils m'ont monté directement en psychiatrie. Et là, je suis passé par le stade de l'isolement, donc tout nu dans la pièce confinée. Et là, il y a juste un petit hublot, donc les portes sont blindées. Et puis par le hublot, il y a 4 médecins qui vous observent comme ça. Je sais pas si les chiens sont plus maltraités. Ouais. Puis après, je me suis réveillé sur un lit scellé. Le lit, il était scellé dans le sol. Une chambre toute carrelée. Et sanglé au lit, les bras sanglés. Le buste sanglé, les jambes sanglées. Apparemment, je devais être dangereux. Enfin, j'en rigole, mais sur le moment... Moi, c'est la première cure que j'ai fait là, comme ça. Mais c'est une semaine de sevrage, et puis on mange pas. Hein. C'est pas comme ici. On est les folles dingos, quoi. On est en blouse blanche et on se trimballe avec la perf à la main, quoi. Et j'étais en psy. Ouais, c'est chaud. Donc là, t'es confronté, après, là, tu rencontres mais n'importe qui. C'est surprenant. C'est une prison. C'est une prison. Les vitres, elles sont... les barreaux... c'est ça, on sort de là-dedans, en fait. On se dit, ça va pas, quoi. Moi, je voulais me pendre. Quand tu fais ça et que tu te retrouves après à l'hôpital dans ces conditions-là, tu te dis... ou alors la prochaine fois, tu te loupes pas, quoi.
Vous faites quoi comme travail?
SNCF. À la SNCF, j'ai fait 15 ans à la RATP. Puis après, je suis rentré à la SNCF. Et puis, on fait tout pour t'empêcher de travailler.
Qui ça?
La direction. C'est politique, après. On fait tout pour casser, quoi. Ils démotivent complètement les gens. Puis là, quand on voit ce qui se passe et ce qui va se passer à la SNCF, elle n'existe plus. Et avant, tu disais la SNCF, maintenant tu dis SNCF. SNCF, c'est devenu une société.
Après une bonne journée de merde, Paris, dans la brume, se couche. C'est d'une tristesse sans pareil, mais moi, ça met le vin à la bouche. J'ai pas envie de rentrer chez moi. Ma banlieue, vaut mieux pas que j'y touche. Je suis bien parti pour rester là, faire n'importe quoi. J'adore ça. Y'a plus que les rades qui sont ouverts et ma pauvre santé va trinquer. Mais toutes ces rues pleines d'imbéciles, je peux plus les voir. Ça me fait gerber. Je me sens pris d'une envie terrible. Mettre une grosse caisse pour oublier. La nuit est belle et enfumée. Une nuit qui va encore mal tourner. Je rentre pas dans n'importe quel troquet, bien pourri, bien délabré. J'aime quand ça pue que c'est pas lavé, avec un zinc en bois bandé. Ici les gens me font marrer avec leur gueule toute retournée. Le patron lui-même est horrible. Avec sa sale tête de gorille. De bière en bière, je contrôle plus rien. C'est la misère, mais je me sens bien. Leur discussion ne ressemble à rien, j'entends plus rien. Je bois de la joie. J'entends plus rien, mais je pense beaucoup. Je rigole tout seul dans ce monde de fou. La nuit est belle et enfumée. Elle est belle et me fait rêver. Dehors, il n'y a plus que les mal-aimés qui essaient en vain de me raconter leur vie, leur errance, leur misère, leur existence. Tout un calvaire. Un d'eux me fait de la peine, vraiment. Plein de poux, de nions, la tête en sang. Au petit matin, je me sens pas bien. Et je ne me souviens plus de rien. Ma tête résonne comme un bourdon au fond de cette sombre prison. J'ai dû tout péter quelque part, pour un demi, leurs sales histoires, mais ça se finit toujours comme ça. Faire n'importe quoi, j'adore ça.
Donc, Bruno Pérez, je suis psychologue et je suis directeur du Calme à Cabrice. Mais à notre connaissance, nous sommes la seule clinique coopérative de France. L'idée générale étant que, en fait, dans notre établissement, il n'y a pas de, dans notre société, on va dire, il n'y a pas le pouvoir de l'argent, puisque en fait, la société, la clinique appartient à tous les gens qui y travaillent. Dans une coopérative, c'est un être humain, une voix. Voilà. Alors, bien sûr, on a toujours essayé de faire en sorte, c'est encore une particularité de la coopérative, que les salaires les plus bas soient les moins bas possibles, et que les salaires les plus hauts soient les moins hauts possibles. Je souris parce que c'est le mien, c'est mon cas, quoi. Ben, en gros, si vous voulez, notre règle, c'est que la personne la mieux payée soit payée au maximum 3 fois plus que la personne la moins bien payée. Au-dessus du SMIC pour le plus bas, et si on parle en net, et pour le plus élevé, moi, je gagne 3 250. On n'est vraiment pas dans la logique d'enrichissement personnel, on est dans la logique de qualité des soins. C'est d'ailleurs quelque chose aussi que nous espérions dans la forme coopérative pour une clinique, ce qui pourrait peut-être être le plus proche du versant thérapeutique que nous avons choisi. Puisque la cure elle-même, la relation thérapeutique, qu'on appelle la thérapie institutionnelle, est elle-même issue d'un courant humaniste. Donc il semblerait qu'il y ait une assez bonne correspondance entre la forme juridique choisie et la forme thérapeutique choisie. La thérapie institutionnelle est une longue histoire qui est née à peu près pendant la guerre dans un mouvement psychiatrique que les psychiatres, psychanalystes courageux ont appelé à l'époque l'antipsychiatrie. Et un des éléments de l'antipsychiatrie était appelé à l'époque la thérapie institutionnelle ou la psychothérapie institutionnelle. Alors, il y a beaucoup d'éléments que nous avons adaptés dans les années 74-75 pour l'alcoolisme. C'est pas tout à fait la même chose que les établissements qui fonctionnent en thérapie institutionnelle en psychiatrie pure. Mais on en a gardé un certain nombre de principes, notamment un certain mode de relation au patient, le fait qu'on porte pas de blouse blanche, qu'ils nous tutoient, on les tutoie, on s'appelle par le prénom. Pour nous, c'est se mettre sur un pied d'égalité avec les patients. Le fait aussi que dans l'équipe, il y a des gens qui ont vécu le problème alcool, qui s'en sont sortis et qui maintenant travaillent dans l'établissement. En gros, une des idées fondamentales, c'est de donner au patient le maximum de pouvoir sur son propre soin. Et non pas des soignants qui le soignent et qui lui disent comment vivre, mais accompagner le patient dans la direction où il souhaite aller. C'est plus difficile, mais pour nous, c'est fondamental. Et est-ce qu'on va soigner au calme? Bien sûr, il y a la première partie indispensable et pour tout le monde, qui est le sevrage. Mais pour nous, le sevrage n'est pas l'objectif. L'abstinence d'alcool n'est pas l'objectif. L'objectif de la cure au calme, c'est d'essayer de repérer, de dénouer les problématiques psycho-affectives qui sont à l'origine de l'alcoolisation.
Et ça fonctionne? Enfin, on peut estimer les taux de réussite ou...
Oui, on a une idée, c'est un peu plus de la moitié des gens, si vous voulez. En gros, il y a à peu près un tiers qui vont rechuter dans l'alcool, et puis un peu plus de la moitié qui va vivre le reste de sa vie sans alcool ni psychotrope, avec une bonne qualité de vie. Et la petite tranche du milieu, nous on les appelle fragiles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alcool, mais il y a encore des psychotropes ou des drogues, ou alors au questionnaire de qualité de vie, puisqu'on suit les gens 6 mois, 5 ans après la cure, etc., et vont avoir un score assez bas. Donc c'est des personnes qui boivent plus d'alcool, mais qui ne sont pas heureuses, satisfaites de leur vie, je dirais.
Voilà comment fonctionne le calme, centre d'action et de libération des malades éthyliques, je le rappelle, dont l'existence est menacée. Il existe une pétition sur Internet. Si vous tapez Calme et Cabrice, c'est AS Calme Cabris. Vous retrouvez facilement cette pétition. On vous l'indiquera à la fin de l'émission, plus précisément, et sur le site France Inter, à la page là-bas, si j'y suis. Ça nous semble intéressant de voir ces fonctionnements et comment, effectivement, le but, et comme le disait tout à l'heure Catherine, l'infirmière, c'est vis-à-vis de ces curistes, de ces patients, elle disait, ils viennent comprendre leur histoire. Et là, ce que dit Bruno Pérez, c'est d'aider, en fait, ceux qui viennent là à reprendre barre sur leur propre existence et leur permettre de passer là un mois où ils ont l'occasion de comprendre un petit peu ce qui leur arrive, qui ils sont, où ils en sont, et pour arriver à surmonter ce qui est bel et bien rien d'autre qu'une maladie. On continue donc dans ce centre avec Annie, qui est chef de cuisine.
Ah, c'est agréable ce soleil. Vous vous appelez comment ?
Alors moi c'est Annie. Je suis donc chef de cuisine dans la clinique du Calme, et ce depuis 21 ans. Et j'ai également fait une cure dans cette maison il y a 30 ans à peu près. C'était en 1980 à l'ouverture. Donc à double raison, je suis vraiment très très attachée à cette maison, à ce que l'on y fait. Si on mène ce combat-là contre l'alcool tout seul, on n'y arrive jamais. Jamais. L'alcool est toujours plus fort. D'ailleurs, combattre l'alcool, c'est toujours l'alcool qui gagne. Je l'ai vu au fil des rechutes. Hein, c'est... Parce que, bon, je suis quinquagénaire aujourd'hui, donc j'ai commencé à me soigner, j'étais très jeune, j'avais 24-25 ans, et je me disais, mais c'est quand même pas possible. Tous ces psys, ces infirmières, ils me disent que tout le restant de ma vie, je pourrais plus jamais recommencer à boire ne serait-ce qu'un fond de verre, que ça forcément, ce petit peu d'alcool que j'aurais consommé m'entraînera à en boire des litres après, quoi. Et ça, j'arrivais pas ni à l'entendre, ni à le concevoir, et encore moins à le croire. Alors j'ai fait l'expérience, j'ai essayé, je me suis rétamée, j'ai essayé trois fois, il a quand même fallu trois fois pour bien comprendre que bah, si on engage un combat contre l'alcool, c'est toujours l'alcool qui gagne. Mais maintenant j'ai compris, et vraiment, bon là ça fait depuis 1984 que je ne consomme aucune goutte d'alcool, ni aucun plat qui contient de l'alcool, et c'est ma façon de me protéger contre cet adversaire-là, quoi, même depuis toutes ces années. Et j'ai vraiment pas envie de tenter l'expérience, même 20 ans, je sais plus combien ça fait, 30 ans après. J'ai vraiment pas envie de tenter l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, ma vie, c'est important, et je veux pas prendre de risques pour ma vie. Je peux vous dire tranquillement, parce que c'est un secret pour personne, j'ai commencé à boire parce que je n'étais pas désiré. J'étais désiré ni par mon père, ni par ma mère. Donc forcément, dans mon enfance, j'ai ressenti le fait que j'étais pas désiré. Par rapport à mon frère et ma sœur, qui eux ont été désirés, j'étais un petit peu le vilain petit canard. Donc j'ai vécu qu'un cas, de zéro à je ne sais pas quel âge, jusqu'à ce que je rencontre l'alcool, avec ça bien ancré au fond de moi-même. Et je pense que c'est ça qui a déclenché mon alcoolisme. J'ai été alcoolique parce que je n'ai pas eu le choix de faire autrement. Et après, j'ai pu parler avec ma mère, beaucoup parler de cette situation, qu'est-ce qui s'est passé un an avant ma naissance, pendant ma naissance, les années qui ont suivi ma naissance. Et pour avoir beaucoup parlé avec elle et compris ses propres raisons qui ont fait qu'elle ne me désirait pas, moi je l'ai accepté. Et en fait, j'ai pardonné. Et depuis ce jour-là, je peux vous garantir que je suis heureuse. Mais c'est un long processus. Oh, j'ai bu pendant une quinzaine d'années. L'argent n'avait pas d'importance, les relations n'avaient pas d'importance, rien n'avait forcément d'importance, quoi. Parce que forcément, en buvant, on recherche un petit peu à se faire du mal, à se punir, à se détruire. Donc plus rien n'a d'importance. Donc tout est permis. C'était une vie d'insouciance, une vie qu'on croyait sans lendemain. Et c'était le début de la liberté aussi, hein. C'était après les années 68, donc... et oui. Moi, je me suis retrouvée avec des clochards, je me suis retrouvée dans la rue, je me suis retrouvée dans le ruisseau, je me suis retrouvée un petit peu partout, mais bon, c'était... À l'époque, ça ne me posait pas de problème, quoi. Puisqu'étant donné que j'avais très peu de considération pour moi-même, je me disais, bon, je dors avec des clochards, ça sent les pieds, ça sent la vinasse, mais quelle importance, quoi. À la limite, c'était bien bon pour moi, quoi.
Et vous n'avez pas eu l'impression que c'était des années de vie gâchées ou...
Gâchées, non, parce que ça m'a fait connaître des expériences que j'aurais jamais connues autrement que sous alcool. Notamment frôler le danger, vivre à 300 à l'heure, je ne pourrais plus le refaire. Et je ne sais pas si je n'avais pas bu, j'aurais pu le faire. On a peur de rien, on est bravache, on commet des imprudences. Je me rappelle avoir skié au milieu des sapins, complètement ivre. Voilà quoi. Parfois, c'était les sapins qui m'arrêtaient.
Comment tu vas ?
Ça va bien, et vous ?
Je suis un ancien.
Toi, hein ?
Dernière semaine ?
Non, je suis à la deuxième.
C'est comment votre prénom ?
Olivia. Je viens d'Évian-les-Bains, alors ça fait rire. Ville d'eau. Puis ben, l'eau, ça suffit pas toujours. Hein. C'est pour ça que je suis là.
Vous mettez la table ?
Alors, pas la première semaine, on touche à rien. On est des gros feignants. Et puis ben, après, on s'y met tous, quoi.
Vous, c'est votre première cure ou vous aviez essayé d'autres endroits ?
C'est la première, là. Mon médecin traitant qui m'a dit que c'était la plus dure, mais la meilleure.
Pourquoi la plus dure ?
Pas de télévision, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, un peu coupé du monde. On est là pour penser à nous et rien qu'à nous. Chose qu'on ne sait pas faire. Donc on est là pour apprendre, quoi.
Vous travaillez sinon ?
Alors non, je ne travaille plus. J'ai été licenciée pour un changement de direction, donc une restructuration. Donc je faisais partie de l'encadrement d'une clinique privée en Suisse. Ça a été la dernière grosse claque qui a fait déborder le vase, quoi. J'avais 1 heure le matin de route, 1 heure le soir, plus 10 à 12 heures de boulot, plus le petit de 8 ans à gérer, plus ça. Et puis au moment du licenciement, là ça a pété, quoi. On n'est pas tous faits de pierre, quoi. Une fois que le petit était parti à l'école, ça commençait. Je mettais le réveil, parce que bon, bien sûr... Je buvais pas mal jusqu'à ce que je m'endorme, en fait. Je mettais le réveil pour le récupérer à l'école, pour être à peu près sobre. Préparation du repas, la soirée ensemble, le bain, le coucher. Et puis, et voilà, maman repartie dans son délire à reboire de l'alcool, quoi. Ah, c'était tous les jours. Ouais. Alors, quand on bosse, c'est que le soir. Et puis, quand on bosse pas, c'est terrible, quoi.
Vous buviez quoi ?
Du gin. Alors au début, on met des bulles, on fait comme tout le monde, hein. On met du gin tonic ou gin coca, et puis après, on met plus de bulles, quoi. C'est terrible. Je faisais un peu tout et n'importe quoi, j'ai même fait de la casse, hein, donc...
La casse ?
La casse de meubles ou de choses comme ça, hein. J'ai jamais rien frappé personne, on va dire, mais par contre, au niveau verbal, c'était assez violent, quoi. Des choses dont je me rappelle même plus, quoi. On me les racontait le lendemain, donc c'est surtout au niveau du cadre familial, quoi. Donc très peu de personnes, en fait, sont au courant de mon problème, parce que y a le sentiment de culpabilité, la honte, il y a tout ça, quoi. Hein. Donc on fait bonne figure à l'extérieur, et puis quand on rentre chez soi, c'est cata. Et en fait, c'est l'entourage qui souffre, quoi. Donc mon objectif, c'est d'essayer de ne pas penser à ce qui se passe là-bas et de penser à moi, ici, aujourd'hui. Et puis, on est là pour s'en sortir, quoi. Puis on est bien encadré, c'est un bel endroit. Je m'attendais à arriver au bagne et en fait, ça se passe relativement bien, quoi. Enfin, moi, j'y crois à fond, quoi. Voilà.
Vous voulez de la salade ou pas ?
Qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi ?
Ratatouille et poisson. On va les manger.
Bon appétit.
Warma, qu'est-ce que tu fous là ?
Et là, vous faites quoi ? Vous venez chercher...
Le repas du midi. Les nouveaux, ils ont une semaine pour qu'on les serve. Et après, ils peuvent se servir.
C'est vous servez les nouveaux ?
Vas-y, explique-lui pourquoi on vient chercher les nouveaux.
Parce qu'ils tremblent un peu. Alors du coup, comme la vaisselle coûte cher, on les sert, vaut mieux.
Ah, c'est c'est pour ça?
Oui, bah oui, regardez, les nouveaux, il y en a pas mal qui ont la tremblote, quoi. Donc du coup, voilà, c'est pour ça.
C'est à cause du sevrage d'alcool?
Ouais, voilà, ouais. C'est les cachets, le sevrage et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on les serre. Pendant une semaine, ils tissent repos. Tout le monde est passé comme ça, alors on n'a pas bien le choix. Tout le monde a tremblé.
C'est la politique de la maison.
C'est la politique, ouais. Moi, comme ça, ils ont le temps de se reposer, tout ça. Et ça évite qu'ils cassent tout.
Vous êtes ici depuis combien de temps?
Moi, c'est ma dernière semaine. Donc, j'attaque la quatrième, je pars mardi.
5, 6 jours, ta mère.
Votre prénom, c'est comment?
Sylvain.
Vous aviez fait d'autres cures ailleurs ou c'était la première?
Non, c'est la première. J'espère que ça sera la dernière.
Ouais, ouais, merci. Donc vous, là, toute cette table, vous êtes les gens qui allaient partir, qui allaient terminer la cure, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Vous avez passé combien de temps ici?
29 jours. 29 jours de plaisir.
C'est vrai?
Tout à fait, oui. Très satisfait.
C'est comment votre prénom?
C'est Jean-Marie.
Donc là, vous allez rentrer chez vous, c'est où?
Oui, je vais rentrer chez moi, du côté de Nice, à Saint-André-de-la-Roche. Voilà, 14h30, ça sera le départ. Donc voilà, très content aussi. On va retrouver un petit peu le monde et puis voilà quoi. Un gros changement dans la vie quoi. Donc, c'est ce qui va faire, c'est ce qui fait le plaisir, grâce au calme.
Vous appréhendez pas trop de rentrer chez vous?
Bon, il y a toujours un peu de tension, mais bon après, bon, c'est faut gérer son stress. C'est ce qu'ils nous apprennent ici au CAM, grâce surtout à la Soma. Beaucoup de détente, prendre sur soi et après ça se passe très très bien quoi.
C'est quoi la Soma?
C'est un mode de relaxation en soi. Donc vous avez plusieurs sortes de soma, donc qui créent des endorphines. Et pour adapter à certaines situations que vous pouvez être confronté dans la vie, suite à la tentation d'alcool. Donc au moins, vous savez comment gérer le stress en fait. On a des séances d'infos qui vous préviennent, qui les mises en garde pour éviter de retomber dans l'alcool. Donc il faut pas subir la tentation, pas une goutte. Que ce soit ça ou les parfums, c'est pareil, on vous apprend. Des techniques de mode pour vous parfumer sans avoir de l'alcool. Donc, il ne faut pas en mettre sur la peau, voilà. Je suis mécanicien poids lourd. Je travaille depuis maintenant plus de 20 ans, 26 ans même. Donc, j'ai toujours travaillé, jamais été au chômage, quoi, comme on peut dire. Je faisais un travail de nuit, je travaille de nuit. Donc, ça ne m'empêchait pas de travailler, quoi.
Et vous buviez au travail aussi ou...
Non, jamais au travail. Non, au travail, c'est tolérance zéro. Donc, vous êtes obligé de passer devant un éthylomètre. Souffler pour savoir si vous avez consommé ou pas. C'est obligé. C'était mon cachet pour éviter de penser, donc je m'enivrais jusqu'à dormir. Moi je le recommande à tout le monde, quoi. Enfin pour ceux qui ont des problèmes avec l'alcool. C'est un truc qu'il ne faut pas prendre à légère. C'est une maison sérieuse, qui est propre, elle est à votre entente, donc c'est génial, quoi.
Donc là vous allez rentrer, retrouver votre famille?
Non, je vais rentrer, mais seul. Voilà, donc je vais rentrer seul, mais ça va aller. On va pouvoir prendre la voiture, la moto, faire du sport, reprendre son travail, reprendre le goût de la vie, quoi.
Ainsi, 17 000 patients ont été efficacement soignés depuis 1981. Dans ce CALM, ce centre d'action et de libération des malades éthyliques, à Cabris, en Provence, un petit village de 1500 habitants, et aujourd'hui, ce centre est menacé de disparition. Donc il existe une pétition sur Internet que vous trouverez très facilement, on va vous indiquer sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, les coordonnées précises de cette pétition. Dans Vivre, il y a Ivre, c'était un reportage de Charlotte Perry, à la technique aujourd'hui Yann Bouillot et Gilles Gaillard, Bertrand Chemeton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Je suis greffé du rein, sans doute grâce à quelqu'un qui était en faveur du don de ses organes et qui l'avait dit à ses proches. Sinon, je serais peut-être pas là pour en parler. Ben, à mon avis, don d'organes, si on est pour et qu'on ne le dit pas, c'est peut-être une chance de greffe qui se perd. Donc si on est pour, mieux vaut le dire. Je confirme.
Don d'organes, pour sauver des vies, il faut l'avoir dit. Plus d'informations sur dondorgane.fr, un site de l'Agence de la biomédecine.
Tu veux bien être mon colocataire?
Oh là oh là, t'es bizarre toi!
Le contrat étudiant de la MEP me couvre les colocataires!
Ah ouais, t'es étudiant toi!
Ah, ça, j'ai rien perdu de mes facultés!
Ça, c'est sûr, la MEP est assurée.
Alors, tu veux bien être mon colocataire?
Là, il faut que j'étudie.
Dans les limites et conditions définies au contrat habitation, MEP étudiant.
Raoul, nettoyeur, j'écoute.
Il vient de rendre l'âme. Je ne sais pas quoi en faire.
Vous pouvez le traîner.
Non, il pèse 100 kilos.
Vous avez une scie.
Je ne vais pas le couper en morceaux quand même. Dépêchez-vous, il commence à fuir.
Mais vous parlez de quoi?
De mon frigo.
De votre frigo?
Vite, il se met à dégivrer. Et pour mon frigo?
Avec Ecosystem, il y a plus simple pour se débarrasser d'un appareil électrique. Tous les points de collecte et les solutions de recyclage sur ecosystem.fr.
Ecosystem.
Le plus simple, c'est de recycler.
France Inter, partenaire de l'exposition Christian Lacroix, La Source et le Ballet de l'Opéra de Paris au Centre National du Costume de Scène à Moulins. Plongez au cœur des ateliers de couture de l'Opéra de Paris où Christian Lacroix a créé les costumes du ballet La Source. Retrouvez l'exposition Christian Lacroix, La Source et le Ballet de l'Opéra de Paris jusqu'au 31 décembre au Centre National du Costume de Scène à Moulins, en Auvergne, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Voilà, et n'oubliez pas, lundi, on part pour la Libye à quelques jours des premières élections dans l'histoire de ce pays. Il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la Basse et j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Nicolas Teillard. Salut!
Les négociations se poursuivent à Toulouse où une prise d'otage est en cours depuis ce matin dans une agence bancaire. Après avoir réclamé de l'argent aux employés, un homme d'une trentaine d'années a sorti une arme et tiré en l'air avant de retenir quatre personnes dans les locaux. Une agence qui, coïncidence ou non, se situe à quelques centaines de mètres seulement du lieu où s'était retranché Mohamed Mera il y a 3 mois. Après avoir relâché une première otage il y a un peu plus d'une heure, une deuxième a été libérée il y a quelques minutes seulement, juste après qu'un deuxième coup de feu ait été entendu. Selon le procureur de Toulouse, l'homme agirait par conviction religieuse et non pour de l'argent. Corinne Cutillat, vous êtes à proximité de l'agence où deux personnes sont donc encore retenues. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil du preneur d'otage?
Écoutez, le forcené serait connu des services de police. Il se fait appeler Bouzama, une identité qui reste à confirmer. On parle d'un homme seul, âgé d'environ 30 ans. Il pourrait s'agir d'un schizophrène en rupture de traitement. Il habiterait dans le Tarn, c'est-à-dire pas très loin d'ici. On dit aussi que l'homme serait connu donc des services de police et qu'il aurait effectué aussi un séjour à l'hôpital psychiatrique de Toulouse. 4h30 après le début de la prise d'otage, c'est-à-dire vers 14h45, une femme a été libérée contre de l'eau et de la nourriture. Et puis, vous l'avez dit, une autre femme otage vient d'être relâchée. Tout le quartier reste bien sûr bouclé, le périmètre de sécurité est très large. Les habitants de l'avenue de Camille Pujol sont priés de rester chez eux. Bien sûr, les occupants de l'appartement situé au-dessus de la banque ont été évacués. Et puis les commerces et les écoles sont de proximité donc sont fermés. Selon un policier, cette prise d'otage pourrait être l'œuvre donc d'un déséquilibré. Peut-être a-t-il voulu braquer la banque, mais il n'a pas été pris au sérieux. Il aurait alors sorti une arme et tiré une première fois, apparemment sans faire de blessés. Le GIGN, de toute façon, est sur place. La sœur du forcené serait là aussi pour tenter de le raisonner. Il n'est pas très religieux, aurait-elle déclaré, même si, vous l'avez dit, le procureur affirme lui qu'il aurait agi par conviction religieuse et non pas pour l'argent.
Merci Corinne Cutillat en direct de Toulouse. L'information de l'après-midi, c'est aussi cette issue politique en Grèce. Après 3 jours de négociations, le leader de la droite conservatrice, Antonis Samaras, déclare cet après-midi être en mesure de former un gouvernement de coalition. Arrivé en tête des législatives dimanche dernier, son parti, Nouvelle Démocratie, a trouvé un accord avec les socialistes et la gauche démocratique. 3 partis favorables au maintien du pays dans la zone euro et au respect des engagements pris par Athènes auprès de ses partenaires européens. Antonis Samaras qui a été officiellement nommé Premier ministre il y a quelques minutes. La Grèce qui affrontera vendredi soir l'Allemagne en quart de finale de l'Euro de football, rencontre déjà rebaptisée le derby de la dette et à laquelle assistera la chancelière Angela Merkel. Angela Merkel qui, à l'instar de Barack Obama, où Vladimir Poutine n'a en revanche pas jugé nécessaire de se rendre au Brésil pour participer au sommet Rio plus 20, sommet consacré à l'environnement et à la préservation de la planète. Il s'est ouvert il y a quelques minutes en présence de François Hollande. On termine avec le lancement ce soir de la fête de la musique, coup d'envoi officiel donné à 23h30 par un concert du groupe Revolver dans les jardins du Palais Royal à Paris. Concert en partenariat avec France Inter et pour lequel vous pouvez aller retirer vos places jusqu'à 18h. Dépêchez-vous, c'est au point culture du ministère de la Culture rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement.
Tous les jours, à partir de 11h, les affranchis.
Un titre dégueulasse, dégoulinant d'un optimisme absurde.
Isabelle Giordano.
Demain, retrouvez Isabelle Giordano et toute l'équipe des affranchis avec leurs invités, Jean-Michel Ribes et Alain Saxe, en direct du studio 106.
Merci à vous.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des affranchis. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
16h04 sur Inter, vous retrouvez Frédéric Lodéon pour le Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Une sinfonia, une symphonie, c'est parfois tout simplement une ouverture. C'est un terme ancien que beaucoup d'auteurs acceptaient, utilisaient. Jean-Sébastien Bach, par exemple, a utilisé la sinfonia pour introduire ses cantates. Alors on a celle de la cantate 31, par exemple. Elle s'intitule, la cantate tout entière, « Le ciel rit ». Eh oui, il a un beau sourire, un beau rire à la fois. Et la musique est censée, évidemment, nous montrer l'ambiance générale de l'œuvre. Il y a aussi une sinfonia, quelquefois, au début d'un opéra. Et puis, petit à petit, cette forme s'est développée. Elle a pris son envol, elle s'est libérée est devenue à part entière la symphonie qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a entendue au 18e, au 19e siècle, 3 ou 4 mouvements. Bref, voilà un enfant qui s'est évadé de sa forme première et de son but premier. Donc Jean-Sébastien Bach et nous, on va essayer de rire aussi avec ce ciel qui est tout à fait optimiste.
Thank you.
Un allegro de Jean-Sébastien Bach, qu'on peut appeler Symphonia, de la cantate 31, Le ciel rit, et on peut l'appeler aussi sonate. Ça a été écrit sur certaines partitions. Alors, quelle est la différence? Aucune, à mon avis. C'est une musique faite pour être sonnée, au contraire de la cantate qui est faite pour être chantée, tout simplement. Et nous avons pu apprécier l'interprétation de l'Accademia Bizantina, dirigée par Ottavio D'Antoni. Jean-Philippe Rameau, lui, a écrit clairement « Ouverture » pour Naïs, un opéra de la paix, intitulé aussi « Pastoral héroïque », et c'était pour la paix d'Aix-la-Chapelle en 1749. Et Rameau nous avertit que l'ouverture est un bruit de guerre qui peint les cris et les mouvements tumultueux des titans et des géants, et on entend là un tumulte par moments, à grand renfort de contretemps, de dissonances rappeuses, de croches répétées, de tambours et de trompettes éclatantes. C'est une des ouvertures les plus spectaculaires du compositeur.